Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine. Et aujourd'hui, science et défiance. Maths, physique, chimie, biologie, la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques est-elle aujourd'hui un terreau propice pour cultiver le soupçon et la défiance? Comment mieux enseigner la différence entre opinion et connaissance scientifique? Comment diffuser l'esprit scientifique auprès des jeunes, voire dès l'école primaire? Nous allons en discuter avec vous, Didier Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences et vice-président de la fondation La Main à la Pâte, qui travaille beaucoup avec des enfants, avec des collégiens, avec des lycéens. Également avec nous, Stéphanie Descroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chimiste et directrice de recherche au CNRS et co-auteur du livre Étonnante chimie, dans lequel des chimistes racontent sur quoi ils travaillent et ce que peut apporter la chimie de positif dans nos vies, notamment par exemple pour la protection de l'environnement. Nous serons également en ligne tout à l'heure avec Jérôme Blanchard, qui est le rédacteur en chef de Science et Vie Junior, qui est un journal et un site internet, et qui nous expliquera quel est le travail qui est mené auprès de l'information des jeunes. En fin d'émission, on passera aux sciences molles ou sciences humaines avec la chronique du psychologue Ibrahim Haïdara, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, comme chaque semaine aujourd'hui, quand et comment parler de sexualité avec ses enfants. Je vous donne d'ailleurs notre numéro de téléphone si vous souhaitez réagir à notre sujet. Science et défiance, 33 7 64 45 51 41. Surtout si vous êtes professeur de sciences dans votre pays, si vous êtes parent. Je vous lis un message de Paulin à Yaoundé au Cameroun. L'esprit scientifique nous invite à questionner l'ensemble de ce qu'on voit et de ce qu'on entend pour comprendre et se faire une idée plus ou moins claire de ces données. Il est vrai que si notre parcours scolaire n'a pas été chargé de matières scientifiques, à l'instar de la physique, de la SVT, ça sera difficile de comprendre plusieurs phénomènes. Mais notre capacité à observer, nous dit Paulin, à questionner, à comprendre, nous permet quand même de ne pas être complètement profane lors des débats scientifiques. Moi, j'ai fait la série A au lycée. Je regrette d'avoir négligé les cours de maths, physique et SVT, mais mon esprit critique me permet de distinguer entre l'information et la manipulation, entre le superficiel et le vrai. Et en outre, l'émission de RFI « Les dessous de l'infox » m'édifie beaucoup. Voilà, une émission qui est présentée chaque vendredi. Puis il y a la chronique aussi, tout ça à retrouver sur RFI.fr. Le dernier sujet des dessous de l'infox, c'est la médiatisation et la désinformation autour des traitements du Covid-19. Et puis aussi, il y a France 24 avec Info Intox. Voilà, beaucoup de choses entre ces deux médias et tous les autres médias d'ailleurs maintenant sont dans des démarches de vérification de l'information avec les limites aussi de la connaissance. Je vais vous lire aussi le message de Khadija qui est à Touba au Sénégal. Je pense que les mots connaissance et opinion sont liés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son opinion sur quelque chose sans en avoir connaissance.
Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment ce vaccin?
Grave.
Ah, c'est vrai ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace ce vaccin?
On peut débattre de tout. Sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées.
Allez, je vous rappelle notre numéro de téléphone si vous voulez participer aux discussions. Science et défiance, 33 7 64 45 51 41. Didier Roux, peut-être une réaction sur tout ce que je viens de citer ?
Alors, je voudrais revenir sur le point très important qui a été fait dans le message de votre auditeur. On ne peut pas donner son opinion si on n'a pas de connaissances. C'est un peu fort et pas tout à fait juste. Le problème, ce n'est pas tellement de savoir si on n'a pas le droit de donner son opinion si on n'a pas la connaissance, qui réserverait finalement d'avoir des opinions à une fraction très limitée de personnes. Le point le plus important, c'est de faire la différence entre opinion et connaissance. Donc on a le droit de donner son opinion. Mais il ne faut pas mélanger ce qui est une opinion, une croyance, avec ce qui est un fait acquis et une connaissance. Donc le point important, c'est de faire bien la différence entre les deux. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Bon, j'interviens souvent dans les écoles primaires, et ce que je fais dans les écoles primaires, c'est, dans le cadre de La Main à la Pâte, c'est qu'on implique les enfants dans des questionnements scientifiques, des expérimentations, des réflexions pour arriver à des conclusions. Donc, en quelque sorte, on les met sur le chemin d'une démarche scientifique qui peut se faire dès l'école primaire, dès la maternelle. Alors, une petite expérience que je fais souvent, c'est, et que vous pouvez d'ailleurs tous faire chez vous, c'est vous mettez la main sur du bois et vous mettez la main sur de la pierre. Ou sur de l'acier, c'est pareil. Vous mettez la main sur du bois, et sur de la pierre ou de l'acier, et vous posez la question, quel est le matériau le plus chaud ou le plus froid ? Là, il n'y a pas de problème, tout le monde répond, le bois c'est plus chaud que la pierre ou l'acier. Très bien. Donc les enfants font l'expérience, ils ont un morceau de bois et un morceau de pierre, ils mettent les mains et ils concluent, le bois est plus chaud. Puis après, vous faites une autre expérience. Je prends un glaçon, je le mets sur le morceau de bois, je le mets sur le morceau de pierre, et je pose la question, où est-ce que le glaçon va fondre le plus vite ? Faites l'expérience, vous prenez des glaçons dans votre réfrigérateur et vous le mettez sur le bois et sur la pierre, et vous verrez. Alors, ce que je fais, c'est ça le point important, c'est qu'avant de faire l'expérience, je demande aux enfants leur opinion. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils ne savent pas, mais ils ont le droit de s'exprimer. Et disons qu'on tombe sur une réponse qui est, très souvent, il fondra plus vite sur le bois, puisque quand j'ai mis la main, il était plus chaud. Mais admettons que ce soit moitié-moitié. J'ai une moitié de la salle qui dit c'est sur le bois et l'autre moitié sur la pierre. Ou toute la classe qui dit c'est sur le bois et personne ne met la pierre. Puis on fait l'expérience et le glaçon fond beaucoup plus vite sur la pierre et beaucoup moins vite sur le bois. Et là, on discute, on essaye de comprendre. Et là, les enfants eux-mêmes raisonnent. Et on finit, je vous donnerai l'explication à la fin, par comprendre, ou en tout cas par expliquer qu'effectivement, quand on met le glaçon sur la pierre, qui est plus froid quand on met la main, ils font plus vite que quand on le met sur le bois ou quand on met la main, il est plus chaud. Ce qui est un peu contre-naturel. Alors, ensuite, je demande aux enfants, maintenant, quelle est votre opinion après avoir fait l'expérience ? Et là, j'ai 100% des enfants qui répondent, ça fond plus vite sur la pierre. Et je fais la remarque, vous voyez, avant, vous ne saviez pas, mais vous avez exprimé une opinion. Et après, vous avez fait l'expérience, vous avez le résultat et vous exprimez une connaissance. Vous avez appris quelque chose. Voilà par ce bref exemple comment, dès l'école maternelle, on peut faire la différence. Alors, je donne quand même l'explication aux auditeurs de pourquoi est-ce que le glaçon fond plus vite sur la pierre que sur le bois. Ben, c'est parce que quand on met la main sur un objet, on ne mesure pas la température. On mesure un transfert de chaleur entre l'objet et votre main. Le bois transmet moins bien la chaleur que la pierre. Donc, quand vous mettez à la même température du bois et de la pierre, vous avez l'impression qu'il est plus chaud parce qu'il transmet moins bien la chaleur, ou votre main transmet moins bien la chaleur au bois que sur la pierre. Et quand vous mettez le glaçon, c'est juste l'inverse. La pierre donne plus de chaleur au glaçon, donc c'est pour ça qu'ils font plus vite, et le bois donne moins de chaleur au glaçon parce qu'ils font plus vite. Donc en fait, la mesure que vous faites, ce n'est pas une mesure de température, c'est une mesure de transfert de chaleur. Voilà. Eh bien, vous voyez, par ce simple exemple, comment on peut faire la différence entre une opinion et une croyance, et comment on peut faire passer une opinion et une croyance par une démarche scientifique, observer, raisonner, comprendre et expliquer.
On a entendu tout à l'heure un extrait de la campagne du gouvernement français pour la vaccination. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Et hors antenne, vous m'avez dit, Didier Roux, mais cette campagne, finalement, pour la vaccination et se protéger du Covid-19, cette campagne, vous m'avez dit, Didier Roux, finalement, elle n'a pas été suffisamment bien orchestrée autour de la connaissance scientifique. Et pourtant, comment expliquer que des scientifiques, des médecins ont passé des centaines d'heures sur les plateaux de télévision, de radio, repris sur les réseaux sociaux, je précise pour ceux qui ne regardent plus la télé, et que malgré tout, cette démarche scientifique médicale n'est pas comprise dans son ensemble. Le rapport bénéfice-risque est mal compris, la notion de marge d'erreur, d'échec, d'acceptabilité d'une faible marge d'échec, c'est mal compris encore aujourd'hui.
Alors, je vais donner des chiffres et je laisserai Stéphanie s'exprimer sur l'ensemble de la question que vous avez posée, sur pourquoi les scientifiques ont du mal à faire passer le message. Mais les chiffres, c'est très simple. Prenons les chiffres. Vous avez 120 000 morts du Covid en France pour une population de 60 millions. Très bien. La probabilité de mourir, c'est la population divisée, le nombre de personnes mortes divisé par la population. C'est 1 sur 500. Un Français a une chance sur 500 de mourir du Covid aujourd'hui. C'est le rapport des deux.
Un risque plutôt qu'une chance.
C'est un risque, mais c'est une probabilité. C'est-à-dire, toute personne a une chance sur 500 ou une malchance sur 500 de mourir du Covid. Très bien. Prenez les chiffres. Aujourd'hui, on a environ 30 millions de la population qui a été vaccinée complètement, un peu plus. Il y a eu 600 déclarations de possibles morts du vaccin possible, ce n'est pas sûr, c'est probablement d'ailleurs beaucoup moins, mais prenons le chiffre de 600 qui a été déclaré. Des gens qui, après vaccinés, sont morts et qu'on pourrait attribuer à la vaccination. Il y a environ 30 millions de personnes vaccinées. 600 sur 30 millions, c'est une chance sur 50 000. Vous avez deux chiffres. Si vous n'êtes pas vacciné, une chance sur 500 de mourir. Si vous êtes vacciné, une chance sur 50 000. Vous avez un facteur 100 de différence. Après, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà des chiffres.
Est-ce que pour vous, Stéphanie Descroix, il y a un problème à la base, dès l'école primaire, en tout cas dès la formation des jeunes, du cerveau des jeunes, pour se frotter aux réalités scientifiques, aux réalités mathématiques et à l'expérimentation?
Ouais, je vais faire le lien entre les deux questions. Il me semble que la période de Covid nous a vraiment, malheureusement, confronté à un échec collectif qui est la compréhension de la science qui est en train de se faire. C'est-à-dire que là, on a des chiffres aujourd'hui sur lesquels on est capable de rationaliser, de discuter, qui sont effectivement assez clairs, assez très clairs. Par contre, ce qu'on a voulu très tôt, c'est des réponses binaires à des questions complexes. Le processus scientifique, on commence avec une opinion ou une intuition, et effectivement, on va avoir une démarche qui va être de poser des hypothèses, de mettre tout un système en place, souvent expérimental en l'occurrence dans mes aspects scientifiques, pour ensuite arriver à un résultat. Sur chaque résultat, on sait qu'on a un pourcentage d'incertitude. Et là, on l'a vécu en temps réel.
Pourtant, les épidémiologistes, les scientifiques n'ont fait que répéter à l'heure actuelle de nos connaissances, voilà ce que dit la dernière enquête ou la dernière recherche. Il se pourrait que il y a eu beaucoup de précautions, beaucoup de vocabulaire autour de cette démarche scientifique quand même.
Ça s'entend. Néanmoins, ce qu'on attendait d'eux, c'est des réponses sur Twitter, c'est des oui-non, oui mais en vrai, est-ce que le vaccin marche? Est-ce que ça marche pas? Quand est-ce qu'on sait? Les masques, pas les masques? En fait, on s'est rendu compte, et je vous avoue, je suis pas sûre d'avoir les réponses à tout, et je pense que ça aussi, c'est être scientifique, c'est connaître là où sa connaissance s'arrête. Je suis pas sûre de comprendre tous les mécanismes sociaux et sociétaux qui font qu'on n'a pas accepté ça, mais néanmoins, le fait d'attendre toujours des réponses binaires, simples, on a raté la capacité de montrer la complexité des choses et comment cet aspect effectivement de complexité s'accompagne d'une forme de risque qui doit être acceptable à l'échelle là d'une société et pas uniquement d'un laboratoire.
Oui, Didier Roux.
Juste pour illustrer, toujours avec des chiffres, ce que vient de dire Stéphanie. Vous prenez la maladie qui arrive. La réponse scientifique, qui a été extraordinaire, la mise au point en un an d'un vaccin, ça ne s'était jamais vu.
Incroyable.
On a offert au monde, en une année, une solution à un problème mondial. C'est extrêmement rare et ça doit être souligné, avec d'ailleurs des technologies nouvelles et des technologies plus classiques.
Cette prouesse technologique scientifique, elle a d'ailleurs elle-même été soupçonnée d'être trop rapide.
Peut-être, d'ailleurs. D'ailleurs, la raison pour laquelle il est plus long d'habitude de faire un vaccin, c'est qu'effectivement, il y a eu une accélération des processus et donc, quelque part, une prise de risque par l'ensemble du milieu scientifique et des industriels. Mais prenons ça. Un essai, ce qu'on appelle un essai clinique, c'est-à-dire qu'avant de mettre un médicament sur le marché, vous faites ce qu'on appelle une cohorte, c'est-à-dire vous l'essayez sur un certain nombre de personnes, environ 40 000. Donc, vous essayez votre vaccin sur 40 000 personnes. On vient de voir tout à l'heure que vous avez une chance sur 50 000 de mourir à cause du vaccin. Ça veut dire que dans votre cohorte, il y a très peu de chances que vous ayez un mort, et vous aurez au mieux un mort, enfin au pire un mort. Donc, vous concluez, au niveau des connaissances actuelles, le vaccin ne tuera pas plus d'une personne sur 50 000. Puis après, vous vaccinez 30 millions de personnes, pour ne pas dire des milliards de personnes. Et là, vous allez faire des statistiques sur 600, 800 000 personnes, 120 000, et là, vous allez trouver qu'effectivement, il y a un risque de 1 sur 50 000. Ce qui est important de comprendre, c'est que la science en marche, c'est justement le passage du « au mieux qu'on connaît, compte tenu de ce qu'on a », jusqu'à petit à petit des connaissances beaucoup plus certaines parce qu'on a appris de ce qu'on faisait.
Mais ça, c'est la démarche scientifique.
C'est exactement
qui devrait être enseignée comme ça, voilà, à l'école, au collège, au lycée.
Exactement, c'est là où je vous rejoins. Je pense qu'une des vraies questions, c'est pourquoi est-ce que les gens ne s'approprient pas ces démarches et face à une question qui était une question majeure, mondiale, qui nous a tous concernés, pourquoi on en est resté à l'écume des choses qui étaient ces réponses simples, ça va,
alors,
ça va pas.
Qu'est-ce qui manquait justement l'éducation aux sciences?
Il me semble que les sciences aujourd'hui, telles qu'elles sont éduquées, sont une façon de trier l'excellence Et peut-être qu'on a de nouveau à travailler sur l'appétence à la démarche, l'appétence au doute, comment est-ce qu'on construit un système de pensée pour arriver à une preuve, de nouveau avec un pourcentage d'incertitude, et le tout avec aussi peut-être autre chose que ce qu'on voit souvent quand même dans les systèmes scolaires, les sciences, c'est dur, alors c'est vrai, hein, c'est exigeant, je pense que c'est des domaines exigeants, néanmoins, c'est aussi, à mon avis, assez joyeux, quand même, et de retrouver de l'expérimentation, du goût, et pas uniquement un côté assez austère qu'on a parfois dans l'éducation des sciences. Ce que tu racontes, Didier, sur ces expériences qu'on fait avec les enfants, là, ils deviennent acteurs. Oui. L'expérimentation, c'est aussi une façon de devenir acteur de ce qu'on est en train d'apprendre. Et ça change complètement la façon de concevoir les choses.
Des sciences austères, complexes, et qui font d'autant plus peur aux jeunes qu'aujourd'hui, elles servent à sélectionner dans le système scolaire, en particulier par les maths.
Oui, oui, tout à fait.
Didier Roux.
Juste pour revenir sur ce point qui est un point important, il faut être objectif. Je vais faire un peu de publicité pour La main à la pâte, hein, qui est exactement ce qu'a décrit Stéphanie. Moi, l'enseignement qu'on m'a fait quand j'étais jeune, et je suis un peu plus vieux que vous, mais je pense que ça devait être assez proche de l'enseignement que vous avez reçu, c'était un enseignement où on nous apprenait comment ça marche. On nous disait, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, on nous demandait d'accumuler des connaissances, d'où l'austérité, d'où la mauvaise compréhension de pourquoi on nous apprend ça, et puis c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être vrai, etc. L'important, c'est de faire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que faire comprendre aux enfants, dans l'éducation, que la science se construit sur une démarche, et qu'ils la pratiquent eux-mêmes. Alors, il est évident qu'on ne peut pas tout leur apprendre, la science qu'ils ont, sur la démarche. Mais le fait qu'ils comprennent que la démarche existe est tout aussi important que la connaissance qu'on leur donne.
C'est ça, exactement. Faire un lien entre cette démarche, et je vais rappeler les étapes, hein, ce que vous faites avec La main à la pâte, hein, qui mène maintenant des expériences dans des centaines et des centaines d'établissements scolaires, qui a été initié au départ par le prix Nobel Georges Charpak. On se pose une question, on observe, on raisonne et on conclut en fonction de ce que l'on a expérimenté. Voilà. Ça n'empêche pas effectivement que l'enseignant puisse parallèlement diffuser des connaissances irréfutables pour aussi avancer un petit peu plus vite parfois. Vous nous appelez en tout cas au 33 7 64 45 51 41. Le manque d'appétit scientifique chez les jeunes est-il un terreau propice pour la défiance, les théories du complot, les fake news, etc. Vous pouvez nous appeler donc au 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à une auditrice qui nous appelle de Dakar. Bonjour Rufina.
Bonjour Emmanuel, bonjour les 7 milliards de voisins.
Soyez la bienvenue Rufina, je crois que vous êtes une ancienne enseignante de SVT, Sciences de la vie et de la terre.
Oui, exact.
On vous écoute.
À la retraite active.
D'accord, à retraite active, on vous écoute Rufina.
Voilà, je voudrais dire mon opinion par rapport non seulement au manque d'appétit des sciences, mais au désamour des jeunes par rapport aux sciences. Et cette problématique n'existe pas seulement au Sénégal, et elle est un peu globale dans certaines parties du monde. Les jeunes devraient plus s'intéresser aux sciences, que ce soit les filles ou les garçons. Parce que tout simplement, pour se faire des opinions, pour avoir un jugement ou des jugements objectifs, il faut avoir des arguments. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la pandémie. Si, par exemple, mon fils me dit qu'il ne veut pas se faire vacciner, quels sont les arguments? Est-ce que c'est vraiment en connaissance de cause? Est-ce que sa position est objective par rapport au vaccin?
Mais vous parliez de désamour des jeunes pour les sciences. Qu'est-ce qui vous fait réellement penser ça, là? Qu'est-ce que vous avez comme argument en faveur de ce sentiment de désamour, Rufina?
Je ne le pense pas, je l'ai vécu. Oui. 19 ans dans les classes,
oui.
Je l'ai vécu et j'ai travaillé là-dessus dans mes travaux de recherche.
Mais que vous disaient vos élèves?
Les élèves ne sont pas intéressés. Comme dit Georges Charpak, la main à la pâte, est-ce que c'est nous qui n'arrivons pas à trouver la méthode didactique pour que nos jeunes s'intéressent aux sciences, ou c'est parce que les sciences sont mal présentées? D'où vient ce manque d'appétit? D'où vient ce désamour? Il y a là un terrain de recherche que doivent investir même les moins jeunes.
Eh bien, Stéphanie Desgrois va vous répondre. Merci Rufina, en tout cas, pour votre intervention. Avec le livre Étonnante chimie, qui est un livre pour le grand public, quelle est la démarche? Je sais que vous cherchez à déconstruire, par exemple, des idées reçues concernant la chimie, qui est aujourd'hui entachée du soupçon, les pesticides, les explosions d'usines chimiques, etc. etc.
Qui sont une réalité, qu'il ne faut pas nier. Mais je pense que ça répond un petit peu à la question de aussi comment redonner le goût des sciences et de la démarche scientifique. Effectivement, pour les plus jeunes, on peut faire des choses très expérimentales. Il me semble que pour les un peu plus âgés, les lycéens, refaire aussi un lien entre le corpus de connaissances qu'on leur demande d'acquérir et la science qui est en train de se faire aujourd'hui, ce qu'on fait dans nos labos de recherche, qui est quand même honnêtement très enthousiasmant, très excitant. C'est un petit peu dans cette idée-là qu'a été fait ce livre, cet ouvrage Étonnant de chimie, avec l'idée de pouvoir montrer non pas que ces côtés négatifs qui existent, qui honnêtement quand même parfois dépendent plus de l'industrie chimique que ce qui se fait dans nos laboratoires, mais qui montrent aussi tous les atouts et comment les domaines scientifiques et technologiques vont vraiment changer le futur. Aujourd'hui, on a des défis majeurs. On a des défis en santé, on en a parlé. Moi, je travaille à l'Institut Curie. Il y a des défis majeurs sur des questions des médicaments aujourd'hui qu'on va pouvoir donner à nos patients. Il y a des questions majeures sur le développement durable, sur l'énergie. Et c'est là où la science a un rôle majeur à jouer pour pouvoir inventer le futur. Et justement, avec Étonnante Chimie, il y a aussi un partenariat avec l'Éducation nationale dans lequel l'idée, c'est que les chercheurs viennent voir les jeunes, plutôt au niveau lycée et collège, avec l'idée aussi que justement, on est vraiment dans un aspect scolaire à l'école, et c'est attendu, c'est normal, mais pouvoir aussi dézoomer et de se dire, ce que j'apprends là, il y a quelqu'un d'autre en face de moi qui est un chercheur qui est en train de l'utiliser pour aller répondre à des questions qui vont être des questions auxquelles toute la société va avoir à se confronter, leur permet aussi peut-être de dézoomer et de voir les choses dans quelque chose d'un petit peu plus global et qui fait sens. Moi, je peux vous avouer, j'ai fait des études de bio et je me souviens de biologie.
Il paraît que vous étiez mauvaise en sciences d'ailleurs.
Non, j'étais hyper nulle en chimie, au collège. Je vous le dis, au lycée, je fais mon coming out. J'ai eu 6 en physique chimie au bac. Moi, j'étais très ado, j'étais pas très scolaire. C'est venu
et
après
vous avez un doctorat en chimie.
Ouais, voilà, tout est possible. C'est hyper rassurant, je trouve, pour les jeunes aujourd'hui.
Et vous êtes une femme. Il faut qu'on en parle aussi dans quelques instants. Vous nous appelez les voisins et les voisines. On parle de ce, comme le disait notre auditrice Rufina, de ce désamour des sciences, de la connaissance scientifique. On parle des sciences dures. Et peut-être comment ça peut constituer un terreau pour la défiance. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51. 41, on se retrouve juste après Freshly Gland. She says, I don't know what it is. Makes me take you by the hand. She says, I don't know what it is. Makes me take you by the hand. I am just curious. I'm curious. I'm just curious. Écoutez 7 milliards de voisins, nous sommes sur RFI en direct et nous parlons éducation comme chaque semaine et on s'interroge sur ce désamour, cette désaffection des jeunes pour les matières strictement scientifiques, maths, physique, chimie, biologie, on dit sciences de la vie et de la terre pour le collège et le lycée. Une auditrice nous appelait, une ex-enseignante à Dakar, et nous disait à quel point elle avait le sentiment que ses élèves se désintéressaient de ces matières. Est-ce que tout cela est un terreau propice à une défiance généralisée, à non pas d'ailleurs l'esprit critique, hein, mais finalement l'entrée dans les théories du complot, les fake news, etc. On en discute avec nos invités. Didier Roux, vous êtes membre de l'Académie des sciences et vice-président de la Fondation La Main à la Pâte, qui travaille beaucoup avec les scolaires dès l'école primaire. Et puis Stéphanie Descroix, chimiste, directrice de recherche au CNRS, et vous avez publié avec des chimistes L'étonnante chimie, donc, dans lequel des chimistes racontent sur quoi ils travaillent et ce que la chimie peut apporter de positif dans nos vies, notamment aujourd'hui, le défi climatique. D'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on en dise un mot avant de passer la parole à notre nouvel invité, Jérôme Blanchard, qui est le rédacteur en chef de Science et Vie Junior. Mais le défi climatique, en ce moment, on a la COP26, et finalement, on a le sentiment que les décideurs politiques ne comprennent pas bien les urgences climatiques et les rapports des scientifiques. Je ne sais pas comment vous ressentez ce problème-là à l'heure actuelle d'une classe scientifique qui est déconnectée de par sa formation en études supérieures aux réalités scientifiques. Stéphanie Descroix.
C'est une question, à mon avis, majeure. On est un pays dans lequel les hommes et femmes politiques sont très, très peu scientifiques. Nous, on a eu la chance dans mon institut de voir quelques parlementaires débarquer. Leur niveau de science était pour certains très bon, en moyenne vraiment pas trop, si je puis me permettre. Et je suis pas sûre que... Alors bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont des conseillers, ils ont des gens qui les accompagnent. Néanmoins, comprendre des systèmes pour être capable d'y faire face et de comprendre quelles vont être les solutions qu'on va pouvoir mettre face à ces questions-là, il me semble qu'il y a quand même un minimum, on dit background en anglais, mais de minimum de savoir qu'il faut avoir pour être capable de poser ces questions-là. Et au-delà de ça, de nouveau, alors je sais que c'est un peu pénible cette histoire de démarche scientifique, mais pour avoir discuté avec des amis qui ont fait des choses différentes de nous, on n'est pas formé à Sciences Po ou à l'ENA comme on est formé avec un doctorat.
Quand vous parlez mécanique des fluides, hein, député, bon, c'est quoi la réaction en face?
Je pense que c'est assez abscon pour lui, on va dire.
Ça sert à quoi la mécanique des fluides d'ailleurs? Dites-nous en deux phrases.
Typiquement, dans le cas des questions de climat, aujourd'hui, on a des collègues, mon collègue Lydéric Bocquet notamment, qui est en train de montrer que quand on est capable de manipuler des fluides à des échelles toutes petites, au milliardième de mètre, on est capable de produire de l'énergie d'une façon complètement différente. Et donc aujourd'hui, il y a des questions majeures justement autour de ces COP. L'énergie
sur la production de l'énergie,
voilà,
bien sûr.
Et au centre des questions, alors ça ne sera certainement pas la seule réponse, et la technologie et la science ne sera pas la seule réponse. On a une vraie question sociétale à se poser, mais elle fera partie de l'équation.
Et bien justement, on revient au niveau des enfants et des adolescents. Peut-être que les parlementaires auraient bien fait de lire régulièrement Science et Vie Junior. Bonjour Jérôme Blanchard.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de ce magazine papier, site scientifique pour les jeunes de 10 à 17 ans, Science et Vie Junior, comment vous ressentez à l'heure actuelle l'appétit ou pas des jeunes par rapport aux connaissances scientifiques?
Je pense qu'il y a un petit décrochage effectivement entre la primaire et le collège. C'est vrai qu'avec l'enseignement de la primaire,
l'école primaire,
en école primaire de la science est pas mal axé sur la manipulation, l'émerveillement, hein. C'est pas la patte qui me contredira. Et au collège, on commence à entrer dans la théorie, quoi. Et nous, finalement, à Sciences et Junior, l'idée, c'est on essaie de continuer cet émerveillement au collège. On essaie de le pousser au-delà de la simple manipulation, en essayant de montrer que la science, sous une forme un peu plus complexe, est aussi hyper fascinante. Donc, c'est un travail que font pas mal les profs, etc. Mais faute d'heures, faute de moyens aussi, sans doute, n'ont pas forcément cette possibilité de continuer à émerveiller, à expliquer comment la science peut expliquer le monde, être source d'émerveillement et de progrès.
Je sais que vous traquez la science même dans les séries et les mangas.
Oui,
de relier le problème à ce qui touche les jeunes au quotidien.
Exactement, ça fait partie, si vous voulez, Sciences et Junior, on a vraiment deux gros pôles. On a le sérieux du journalisme scientifique, hein, on est tous des journalistes scientifiques à la rédaction, et puis on a quelque chose de très particulier qui est le soin de la mise en scène. Donc, c'est pas forcément les échos d'actualité scientifique très pointue, on le fait, mais pas seulement. On essaie d'aller montrer que la science se cache partout. Donc, on a une rubrique qui est assez légendaire, là, qui s'appelle Pop Science. Depuis des années, on fait ça. On se demande si l'armure du Mandalorien, dans quel alliage réel est faite l'armure du Mandalorien? Est-ce que dans les ninjas tels que Naruto son raccord avec l'histoire. Est-ce qu'on peut courir les bras en arrière comme Naruto sans tomber? Et comme ça, l'air de rien, on va parler de physique, de chimie, de biologie, de voilà.
Ouais. Didier Roux, vous la ressentez cette cassure entre l'école primaire et l'adolescence? Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est à ce moment-là, au moment du passage à l'adolescent, que les jeunes se disent, c'est trop compliqué, ça ne me concerne plus, les sciences.
Alors, je vais être tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jérôme, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de rupture qu'il faut utiliser, mais repartons de la base. La base, c'est que l'enseignement des sciences, et ça rejoint la question sur les politiques, l'enseignement des sciences à l'école n'est pas fait uniquement pour favoriser des carrières scientifiques. Elle est faite avant tout pour donner à tous les citoyens, même ceux qui n'auront jamais de carrière scientifique, qui feront tout à fait autre chose, des bases de connaissances en sciences et sur le raisonnement scientifique qui vont les armer pour s'attaquer à des problèmes de citoyens, qu'ils soient journalistes, politiques, littéraires, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils sachent comment la science se fait et pourquoi elle se fait.
Ouais, et avoir, par exemple, une opinion sur la 5G, par exemple.
Par exemple, mais à condition quand même qu'on leur fournisse les bonnes informations.
Mais c'est ça. C'est-à-dire alors, comprendre les différentes informations scientifiques.
Et je reviens là. Donc, ce que j'ai découvert, parce que ma carrière fait que j'ai découvert ce que faisait la main à la pâte, enfin, je le connaissais un peu par mon épouse qui est professeur des écoles, mais je l'ai découvert dans les enfants, en passant dans les écoles primaires assez récemment. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, pendant un certain temps, et l'école primaire est totalement privilégiée pour le faire, il n'y a absolument pas de désamour pour la science. Vous prenez un enfant de maternelle, vous prenez un enfant d'école primaire, et vous l'encourager à se poser des questions sur le monde qui l'entoure, mais il est le premier à poser des questions. Et ça l'intéresse énormément. Et quand ensuite, vous l'aidez à raisonner avec ses camarades en équipe pour essayer de comprendre comment on peut y répondre aux questions qui se posent, eh bien, il est encore plus enthousiaste. Et on va construire avec ses enfants une solidité, non pas de connaissance, mais une solidité de savoir qu'on peut accéder à la connaissance. Et ça, ça lui durera toute sa
mais
vie.
Alors, donc, à quel moment et pourquoi on passe alors, de l'interrogation au soupçon?
Mais parce que
c'est pas la
parce
même chose.
Que malheureusement, un peu contrairement à ce que les gens bien intentionnés pensent, l'enseignement des sciences en école primaire n'est fait que marginalement, malgré les efforts de la main à la pâte, malgré les efforts de tas d'autres enseignants et associations. Elle n'est faite que marginalement comme cela. Les enfants à l'école primaire ne sont que très peu confrontés à ce qui s'appelait avant la leçon de choses et qui aujourd'hui correspond à un apprentissage actif de la science. Donc en fait, il faut plus de science en école primaire, plus de science en maternelle, pour qu'ensuite, quand ils aborderont ce qu'on a appelé la théorie, ou qui est un peu plus ardu, ils gardent leur passion et leur intérêt qu'ils auront acquises plus tôt. Ouais. C'est pour ça que je dis, les sciences, c'est d'abord à l'école maternelle, et ensuite tout le reste de la vie.
Jérôme Blanchard, vous qui, je vais vous donner aussi la parole, oui, Stéphanie Descroix, mais Jérôme Blanchard, vous qui êtes rédacteur en chef de Science et Vie Junior, donc un site scientifique pour les jeunes de 10 à 17 ans, est-ce qu'à l'heure actuelle, les algorithmes des réseaux sociaux ne recouvrent pas, de toute façon, quoi qu'on fasse, les efforts fournis pour diffuser des vérités scientifiques, des algorithmes dont on a appris récemment qu'ils ne sont même plus maîtrisés scientifiquement par ceux qui les ont créés, c'est-à-dire les ingénieurs de Facebook?
Oui, alors c'est toute cette question de la vérité scientifique. Voilà, c'est comme le disait Didier, il y a cette question de méthode qui est très importante pour produire de la science, mais aussi pour produire du discours sur la science. Et plus que la question des algorithmes, finalement, c'est la question des types d'informations qui sont complètement mêlées sur les réseaux sociaux. Tout comme sur certains plateaux de télé, on va mettre un expert du climat et puis quelqu'un qui a une opinion face à face. Et puis, du coup, pour le spectateur, ils auront le même poids. Les réseaux sociaux, Internet, ça met tout ça sur le même plan. Et les gens se font une opinion sur des types d'informations qui n'ont pas les mêmes moyens de construction. C'est-à-dire que quand on est journaliste, et journaliste scientifique en particulier, on enquête, on appelle des gens, on lit des publis, etc. Et c'est une information qui est digérée. Publications scientifiques, pardon. on va écrire un article. Donc, facialement, cet article, ce sera un article de telle taille, écrit avec des signes, et il ressemblera comme deux gouttes d'eau, superficiellement, un article écrit n'importe comment.
Stéphanie Descroix, est-ce que les fake news, les théories du complot, le soupçon ne prospèrent pas grâce, finalement, aussi à l'affaiblissement de deux professions conjointes, le métier de journaliste, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons politiques. Tout le monde a intérêt à affaiblir cette profession. Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens qui ne sont pas dans les démocraties. Et puis, des chercheurs scientifiques aussi, un affaiblissement des chercheurs scientifiques indépendants des intérêts industriels. Même si aux États-Unis la désinformation prospère, alors que c'est pourtant un pays qui est leader dans la recherche scientifique, mais comment vous vous situez par rapport à ça et comment on peut répondre à ces affaiblissements-là pour que les jeunes continuent d'être informés scientifiquement ?
Mais justement, je pense que ça rejoint votre question de science et défiance. Je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que scientifiques de sortir de nos labos. C'est parfois quelque chose sur lequel certains de nos collègues ne sont pas obligatoirement très fans, avec l'idée de dire non, mais nous, on est des scientifiques, on est là pour faire la science, la communication.
Bon, ils vont dire aussi, on n'a pas le temps.
Alors ça, on n'a pas le temps. C'est assez clair que le métier de chercheur est quand même très exigeant et très chronophage. Néanmoins, je pense que nos jeunes très jeunes, nos jeunes moins jeunes, nos politiques, nos collègues, nos voisins, c'est notre responsabilité aussi en tant que scientifique de sortir de nos labos, d'être capable de dire justement qu'on ne sait ou qu'on ne sait pas. La question de mettre tous les experts au même niveau, moi, vous me posez des questions sur la 5G, j'ai rien à dire. Je suis scientifique, je suis dans un domaine qui s'appelle la microfluidique, je n'ai rien à dire sur la 5G, pas plus que vous ou n'importe qui dans la rue. Donc ça, c'est quand même vraiment
quelque chose d'important.
Si vous
lisez des articles scientifiques sur la 5G, vous allez mieux comprendre qu'un profane.
Certainement, mais c'est même pas encore sûr. C'est des aspects qui sont très précis.
Je vous conseille à tous de lire le rapport de l'Académie des sciences sur la 5G,
exact.
Qui est assez facile à lire et qui explique très bien les tenants et les aboutissants, d'ailleurs en adressant un certain nombre de questions. Donc il suffit d'aller sur le site de l'Académie des sciences et taper 5G, rapport, et vous aurez des choses à lire intéressantes.
La question des sciences citoyennes et comment les chercheurs sortent de leur labo pour aussi embarquer les citoyens tout autant qu'on est à se poser des questions collectivement et justement de comment est-ce qu'on se pose ces questions, est-ce qu'on est expert, est-ce qu'on ne l'est pas, il me semble que là on a énormément à faire. Et c'est pas qu'une question, on a moins de journalistes, moins de chercheurs. Je ne suis même pas, j'ai pas les chiffres en fait. Même à cette question-là, moi, je suis pas capable
de répondre. Et pas assez de filles dans les sciences. Alors, on terminera là-dessus.
Ça, c'est dramatique, et je pense que ça se joue effectivement pas en maternelle, mais bien après. On a un vrai problème de figures féminines dans la science. Quand on raconte les sciences aux jeunes filles au collège, on ne leur raconte que des histoires d'hommes. Alors, c'est vrai aussi en histoire, je pense que c'est pas vrai qu'en science. On a Marie Curie, alors moi je viens de Curie en plus, et Irène, mais qui sont les exemples les plus écrasants qu'on puisse imaginer parce que c'est vraiment des icônes absolues. On a un vrai problème de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à embarquer. Moi je l'ai dit à ma fille, moi j'ai une fille et un garçon, et je lui dis, mais tu sais, tu peux tout faire. Tu peux être intelligente, brillante, belle, féminine, tu ne dois rien t'interdire. Et mon fils me dit, ben, moi aussi, oui, mais pour toi c'est plus évident.
Est-ce qu'on peut parvenir à intéresser des jeunes, et en particulier des filles qui ne vivent absolument pas dans un environnement scientifique?
Ah, mais
parce
moi,
que
je
vous,
suis sûre que ça.
C'est gagné pour vos enfants pratiquement, ouais. Avec la mère qu'ils ont.
Mais ils ont plein de copains, les enfants. Et moi, je passe ma vie à les aider à préparer le brevet quand ils sont plus petits en primaire. Et je continue à le faire. Et je sais que les jeunes, quand on est capable de leur expliquer à quoi ça sert, de leur montrer l'intérêt des choses, de partager notre enthousiasme. Les enfants, c'est curieux quand même, honnêtement. Nos gamins, ils sont curieux, ils ont envie de savoir des choses. Si on arrive à les embarquer là-dedans en ne montrant pas que l'austérité de nos sciences, on les embarque et ça marche.
Voilà.
Et on les valorise.
Se poser des questions, observer, raisonner et conclure en fonction de ce que l'on a expérimenté. Ça, c'est une partie de la démarche scientifique. Merci en tout cas à tous les deux, Didier Roux, Stéphanie Descroix. Merci à vous aussi, Jérôme Blanchard. Dans quelques instants, on passe à des sciences plus approximatives, mais bien utiles tout de même pour les parents, avec la chronique du psychologue à Bamako, Ibrahim Haïdara. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, quand et comment parler de sexualité avec ses enfants? Ça sera juste après ce duo électro inspiré par l'Inde, à découvrir absolument. C'est un petit coup de cœur pour moi. Mohan par Synapson. Show it to me, yeah.
7 milliards de voisins, j'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
D'ailleurs, et nous retrouvons le psychologue Ibrahim Aïdara. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue à Bamako et bien sûr on écoute chaque semaine vos conseils à retrouver aussi sur les plateformes de téléchargement avec le podcast Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, quand et comment parler de sexualité aux enfants quand le sujet est largement tabou dans la famille, dans la société? Je rappelle que vous êtes psychologue à Bamako, alors évidemment vous nous parlez des pays du Sahel.
Je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut se dire qu'à un moment, il faudrait bien qu'on parle de sexualité à son enfant. Je pense qu'il faut qu'on se dise que plus on tait ce sujet, même s'il est tabou, plus il sera difficile pour son enfant à comprendre et à aborder le sujet de la sexualité quand il deviendra un jour adulte ou quand il sera en couple. Ça va être très difficile pour lui. Il faut parfois savoir briser certains tabous. C'est fondamental, tout simplement, dans le but d'éduquer. C'est pour cela qu'on parle d'éducation sexuelle. Maintenant, pour répondre à la question, Emmanuel, quand et comment faudrait-il parler de sexualité à ses enfants? On a plus intérêt, je pense, à anticiper certaines discussions avec son enfant, que ce soit un garçon ou une fille.
Ouais, mais on a toujours tendance à reculer pour mieux sauter, hein, comme on dit.
Ben oui, on recule pour mieux sauter. Et du coup, cet enfant, il va vers les réseaux sociaux qui les influencent ou les amis qui ne sont pas parfois les meilleurs conseillers de nos enfants. Ce qui est sûr, il faut vraiment en parler au plus tard, vers 10-12 ans, donc la préadolescence. Et cela dépend aussi quand on a affaire à un garçon ou à une fille.
Vous pensez aux grossesses précoces pour les filles.
Les grossesses précoces.
Qui ne dédouanent pas la responsabilité, bien évidemment, du garçon.
Bien sûr. Et pour finir, il faut en parler avec beaucoup de pédagogie. Cette pédagogie, on en a besoin partout. Cette ouverture d'esprit pour ne pas être très surpris de la curiosité qu'ont parfois nos enfants. Voire même la maturité de son enfant, qui pourrait déjà avoir une certaine expérience sexuelle alors que l'on pense à l'éduquer sur la sexualité. Il peut être en avance cet enfant. Donc, ne jamais attendre l'adolescence pour parler de sexualité. Il est plus proche de l'âge adulte que de l'enfance et on sait beaucoup de choses avec les adolescents au Mali comme ailleurs. L'éducation sexuelle, ça consiste surtout à prévenir. Gardons ça en tête.
Alors, l'éducation sexuelle consiste à prévenir, mais alors pourquoi le sujet de la sexualité continue d'être très tabou dans bon nombre de familles?
Eh bien, parce que le sexe est tabou, le tabou reste parfois tabou, il y a des tabous qui vont être brisés, donc on le tait. On a honte d'en parler aussi. Surtout, on ne sait pas comment en parler et quand en parler. Ce moment, quand est-ce qu'il faut le choisir, est parfois difficile pour les parents. C'est vraiment délicat comme sujet, Emmanuel. C'est valable dans plusieurs sociétés, ici ou d'ailleurs. La sexualité précoce, les pertes de valeurs traditionnelles comme la virginité d'une fille, ça c'est encore d'actualité en Afrique. Les maladies sexuellement transmissibles, le refus de s'attacher au mariage. Mais l'école faisant une partie de cette mission éducative, hein, d'éducation sexuelle, certains parents pensent que ça suffit, qu'il faut se limiter à là, c'est l'école qui va faire le reste. Et que les adolescents, ils vont apprendre le reste sur le tas, dans les foyers ou quand ils deviendront adultes. Et ça, c'est une erreur totale, hein, surtout de la part des parents. Et la religion musulmane, comme la religion chrétienne, a une influence considérable sur la retenue sur le plan sexuel. Dans les deux religions monothéistes, on voit que c'est quelque chose de très important.
Et sur le tabou de la sexualité.
Et le tabou de la sexualité. De nos jours, ces jeunes, ils ont appris de façon, je dirais, non catholique, hein, des choses qu'on leur a cachées. Ils ont été curieux et qui sont pourtant au centre de leurs préoccupations et de leurs plaisirs. C'est important pour eux. Du coup, ils ne s'en privent plus. C'est aussi les conséquences de cette fameuse mondialisation. Mais, et du coup, en parlant à nos enfants, c'est le seul moyen de pouvoir les guider.
Est-ce que ce sujet ne fait pas partie des préoccupations de celles et ceux qui viennent vous consulter, Ibrahim Haïdara ? C'est un sujet que vous abordez souvent ?
Je l'aborde très souvent dans les consultations avec les adolescents, mais aussi avec les adultes. C'est tout à fait normal qu'on aborde ce sujet en consultation parce qu'on n'arrive pas à en parler avec les parents. Donc quand une question est taboue ou qu'elle est incomprise et qu'elle cause beaucoup de tort à un adolescent, il va difficilement se sentir à l'aise avec ce sujet. Donc venir voir un psychologue, ça permet d'avoir le regard d'un professionnel, d'une autre personne qui vous dira avec les mots ce qui est essentiel et dispensable et qui vous permettra d'être beaucoup plus épanoui sans avoir une certaine gêne sur le sujet, parce qu'on se gêne. Et dans un couple, surtout marié, c'est une préoccupation première. C'est pour ça que je disais que les adultes aussi viennent nous consulter. Et ça déstabilise beaucoup le conjoint quand il n'a jamais eu d'harmonie et d'ouverture, pour ne pas dire de curiosité, avec celle ou celui qui est censé être sa moitié, donc son partenaire. La violence ou l'absence de désir sexuel peut aussi parfois s'expliquer par cette méconnaissance de son corps. On ne connaît pas son corps et on ne connaît pas non plus le corps de l'autre, de son partenaire.
Oui, alors évidemment, on n'est pas dans la meilleure position dans ces cas-là pour parler de sexualité à ses enfants.
Oui.
Quel conseil vous donnez sur un sujet aussi tabou sans que ça crée une incompréhension, un malentendu ?
Oui.
Parler de sexualité avec ses enfants.
Emmanuel, il faut qu'on ait beaucoup confiance en soi en tant que parent sur ce qu'on va dire. Il ne faut pas qu'on hésite. Il faut savoir répondre avec, je dirais, intelligence aux questions de ses enfants, notamment quand ça frôle la sexualité, parce qu'ils posent des questions. Il faudrait se dire qu'un parent a toujours intérêt à mieux informer son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, et que le devenir de cet être, de cet adolescent, il dépendra de ce qu'on en a fait à un bon moment. C'est très important.
Voilà. Eh ben moi, je retiens 10, 12 ans, c'est la date limite pour parler de sexualité avec ses enfants. Ce sont les conseils du psychologue de Bamako, Ibrahim Haïdara. Tous ces conseils sont à retrouver en podcast, les chroniques parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les livres scolaires en Guinée qui manquent partout dans les salles de classe. Un vieux scandale qui ne semble plus émouvoir grand monde d'ailleurs. Où sont passés les manuels en Guinée ? C'est une enquête de Charlie Dupiot. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Nos émissions sont toujours disponibles en podcast à l'heure qui vous convient pour les réécouter. Et même sans connexion Internet, hein, je vous le rappelle, une fois que l'émission est téléchargée dans votre smartphone. Je vous dis à demain.